Le martyr de Saint Jean-Baptiste. C'est dans le silence de la prière qu'il faudrait accueillir les actes du martyr de Saint Jean-Baptiste. Comme Jésus, il va connaître une mort violente et pleine d'une indicible cruauté. Il va le précéder sur le chemin de la Passion en acceptant l'humiliation, la dérision et l'extrême souffrance. Son sang va être versé comme par avance. Et comment ne serait-il pas mêlé au sang sauveur de Jésus? Et cette mort, il l'a déjà librement consentie et offerte. Il ne va pas la subir, mais s'offrir en immolation, en holocauste d'amour. Sans doute y a-t-il souvent pensé, et l'a-t-il pressenti dans l'obscurité de son cachot. Notre Seigneur ne promet jamais à ses disciples de les préserver de la mort, des épreuves ou des souffrances. Mais il permet que cela leur procure de plus grands avantages que s'ils en avaient été préservés. Saint Jean-Baptiste, dans sa prison, sait bien qu'Hérode ne peut nuire qu'à son corps et que de toute façon cela lui procurera des avantages spirituels. Jésus le dira à ses disciples « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne sauraient tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps. » Il demeure donc rempli de confiance et de paix, totalement abandonné. Or, la liberté que possèdent les âmes abandonnées à Dieu leur apporte une grande paix et une profonde joie. Elles savent que Dieu est un Père plein de bonté qui veut les mener à lui. Que craindraient-elles ? Elles vivent dans l'abondance des biens divins et dans une paix qui surpasse tout sentiment. Cette paix découle de la confiance inébranlable qu'elles ont en Dieu et de l'intimité profonde qui les unit à lui. Le Seigneur est leur force, leur sagesse et leur gloire, et jusque dans les ombres de la mort, elles goûtent une joie inaltérable, parce qu'elles savent qu'elles sont entre les mains du meilleur des pères, du plus fidèle des amis, du plus tendre des époux. Hérode, quant à lui, habitait souvent sa lointaine forteresse de Macéronte où il avait fait mettre en captivité Jean-Baptiste. Un jour, pour fêter l'anniversaire de sa naissance, il donna un festin aux grands de son royaume. La fille d'Hérodiade, Salomé, dansa publiquement devant lui et elle lui plut, de sorte qu'il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle lui demanderait. Citation de Saint Jean Chrysostome. Ô festin diabolique, ô assemblée de démons, ô danse cruelle. On y décide en un moment la mort la plus injuste qui soit. On y fait mourir un homme qui ne méritait que des louanges et des couronnes. On apporte à ce festin cette tête qui était le trophée des démons. Considérons aussi la cruauté d'Hérode et son insensibilité pleine de folie. Il s'engage par serment et il permet à cette fille de lui demander tout ce qu'elle veut. Pourtant, lorsqu'il reconnaît dans quel excès il s'est engagé, l'Écriture nous dit qu'il en est fâché. Considérons l'ensemble de ce festin et nous verrons que c'était le diable qui y présidait. Premièrement, tout s'y passe dans les délices, dans la fumée du vin et des viandes, ce qui ne peut avoir que de malheureuses suites. De plus, la licence et le libertinage y règnent souverainement. On y voit une jeune fille que sa mère devait cacher comme un témoignage public de son impudicité et qui entre au contraire avec pompe et magnificence au milieu de ce festin et au lieu de se maintenir dans l'honnêteté propre à son sexe, elle s'expose aux yeux de tous avec une impudence que n'auraient pas les femmes les plus débauchées. Craignons cet abîme et ce piège par lequel le démon fit tomber ce malheureux prince dans ce grand crime. Dans la frénésie de la passion qui le possédait, il estima si peu la principauté qu'il fut prêt d'en donner la moitié pour une danse. La passion a tellement égaré sa raison qu'il commet à la fois deux actes de la dernière folie. D'abord, de rendre maîtresse de ses actions une fille furieuse, enivrée de passion et capable des plus grands emportements. Et ensuite de confirmer par serment une promesse si extravagante. Vit-on jamais une si brutale cruauté ? Une jeune fille, pour grâce, demande un meurtre. Elle demande une mort injuste, la mort d'un saint, et elle fait cette cruelle demande au milieu d'un festin, devant tout le monde et sans rougir. Elle ne prend point Hérode en particulier pour lui faire cette demande. Elle la fait devant toute la cour, avec un front d'airain, avec un visage de prostituée, et le démon qui lui avait inspiré ce qu'elle devait demander, lui fait accorder ce qu'elle demande. C'est lui qui la fit danser avec tant de grâce, qui fit qu'Hérode fut ravi de la voir, et qu'ensuite il s'abandonna aveuglément à sa passion. Mais Dieu voit tout cela, et il le souffre. Il ne lance point ses foudres sur cette malheureuse. Il ne réduit point en cendres ce front insolent et cette langue homicide. Il ne commande point à la terre de s'ouvrir pour abîmer ce prince et tous ses convives avec lui. Il retient sa justice en cette rencontre pour préparer à son serviteur une couronne plus illustre et pour laisser à tous ceux qui le suivront une plus grande consolation dans leurs maux. Qu'avait à reprocher Hérodiade à saint Jean ? Il ne lui avait jamais fait la moindre réprimande, et il s'était toujours adressé à Hérode. Mais c'est sa conscience criminelle qui lui fait sentir l'aiguillon du remords. C'est le bourreau qui la tourmente et qui la déchire intérieurement. Ce qu'elle endure au dedans la rend comme furieuse au dehors. Il est très beau aussi de considérer avec quelle modération l'Évangile rapporte cet attentat d'Hérode. Il ne l'exagère point, et il semble même l'excuser en quelque sorte. Il dit qu'Hérode s'affligea de cette demande, mais que néanmoins, à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il consentit à cette mort. Il dit de même de cette jeune fille qu'elle fut poussée à cela par sa mère, et qu'elle lui porta cette tête, comme s'il disait qu'elle ne fit que lui obéir. Car les véritables justes plaignent davantage celui qui fait le mal que celui qui le souffre, parce qu'ils savent que le mal retombe sur celui qui le fait. Ainsi, ce n'est point saint Jean qui est à plaindre dans sa mort, puisqu'il n'en reçut aucun mal, mais ceux qui l'ont traité si cruellement. Il est bon d'imiter toujours cette modération, de plaindre les pécheurs, de couvrir leur excès, pour entrer ainsi dans des sentiments vraiment chrétiens. L'évangéliste, en parlant d'Hérodiade, cette femme impudique et meurtrière, le fait sans exagération et fort simplement. C'est ainsi qu'agissent les saints. Ils ne font pas des imprécations contre les méchants, mais ils pleurent et ils soupirent pour eux. Il n'est rien besoin d'ajouter au récit que nous donne l'Évangile du martyre de saint Jean-Baptiste. Par son martyre, saint Jean nous donne l'exemple. Il nous apprend qu'il faut confesser la vérité et savoir mourir pour elle, alors même que notre parole ne devrait pas être entendue et qu'au regard des hommes, notre mort ne devrait servir à rien. Dieu peut faire d'apparent gaspillage de son bien, tout est à lui. Et la vérité n'a besoin que de notre témoignage. C'est ainsi que Jean fut le précurseur à la fois dans sa vie et dans sa mort elle-même, se livrant jusqu'au bout, jusqu'au merveilleux témoignage du martyr. En mourant de cette mort cruelle, il prépare ainsi le baptême de la passion de notre Seigneur. Mais Dieu ne précipite ses serviteurs dans les afflictions, les humiliations et les souffrances, que pour les élever ensuite à des faveurs et récompenses indicibles. Ce qu'Hérode infligeait comme une peine, Jean-Baptiste le recevait comme une faveur. Et il jouissait de sa colère comme d'une miséricorde de Dieu, parce que c'est une vraie joie pour les saints de sortir du monde. Comme l'esclave, après l'accomplissement de sa tâche, se réjouit d'apparaître devant la face de son Seigneur, ainsi Jean-Baptiste, ayant consommé le mystère de la prédication confiée, exultait de passer à Dieu. En mourant pour la vérité, Jean-Baptiste est mort pour le Christ, lui qui est la vérité même. Il nous montre le chemin, car la consommation du martyr n'a pas seulement lieu par l'effusion du sang. Une autre forme de martyr advient par l'éloignement des péchés et par l'observation de tous les préceptes divins. Le chrétien est toujours sous le feu de la persécution, car tout ce qui est dans le monde lui est opposé. De quelque côté que je porte mon âme, je rencontre des périls. Ne croyez pas que pour les chrétiens ou les religieux, le martyre consiste simplement dans l'effusion du sang. À la nouvelle du martyre de Jean-Baptiste, ses disciples dévoués viennent réclamer son corps et le déposent dans un sépulcre. Saint Matthieu rapporte qu'ils vont ensuite trouver Jésus pour l'avertir. Leur première réaction est de courir vers Jésus. Cela montre bien que les sentiments de jalousie qu'ils avaient eus d'abord contre Jésus s'étaient complètement dissipés. Et sans doute plusieurs vinrent-ils non seulement pour apporter la nouvelle, mais aussi pour se ranger parmi les disciples de notre Seigneur. Et Jésus, comment réagit-il à l'annonce de la mort de son précurseur? Citation des petits bollandistes. Jésus-Christ savait certainement que Jean-Baptiste devait mourir et quel genre de mort il aurait à subir. Cet événement ne lui fut pas un instant inconnu. Mais il voulut, dans cette circonstance, ne concevoir et laisser paraître son chagrin qu'à la manière des hommes, c'est-à-dire lorsqu'il eut été informé de la mort de celui qu'il chérissait justement plus que tous les autres hommes. À cette annonce, Jésus fut affecté d'un profond chagrin. Dans l'affliction qu'il en éprouva, il ne put rester plus longtemps dans le pays, mais comme pour se consoler de sa tristesse, il monta dans une barque avec ses apôtres et passa la mer de Tibériade pour se retirer dans le désert. L'Évangile nous dit qu'à cette nouvelle, Jésus s'éloigna en barque pour aller à l'écart dans un lieu solitaire. Il fut sans doute broyé dans tout son être, et peut-être s'éloigna-t-il pour laisser libre cours à ses larmes, comme il pleurera bientôt sur la tombe de son ami Lazare. Comment pourrait-il répondre autrement que par ses larmes au mal qui vient de triompher? Il oppose la résistance passive de sa souffrance et de sa tristesse au pouvoir du mal, car elle seule assigne une dernière limite au pouvoir du mal. Il n'a pas pu détourner le malheur qui a fondu sur Jean-Baptiste, mais en partageant sa souffrance, il se place à ses côtés et il lie son sort à celui de son précurseur. Il sait que lui aussi devra aller jusqu'au bout et traverser les eaux amères de sa passion. Et plusieurs fois encore, avant sa mort, il reviendra sur le témoignage de Jean, montrant par là combien celui-ci lui restait présent. Citation de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 21. Moi aussi, je ne vous poserai qu'une seule question. Le baptême de Jean, d'où était-il? Était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. En vérité, je vous le dis, les prostituées et les publicains arrivent avant vous dans le royaume de Dieu. En effet, Jean-Baptiste est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains, eux, et les prostituées ont cru en lui. Et vous, devant cet exemple, vous n'avez même pas eu un remords tardif qui vous fit croire en lui. Et juste à la veille de sa passion, alors qu'on cherche à l'arrêter pour le faire mourir, notre Seigneur retournera au lieu où il a reçu le baptême de Jean. C'est dire combien cet endroit lui était cher et tout pétri de souvenirs. Alors que son ministère va s'achever par sa mort cruelle sur la croix, Jésus retourne là où il a commencé. Il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, là où Jean avait baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui. Il disait « Jean n'a accompli aucun signe, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. C'est en ce lieu que sainte Marie-Madeleine et sa sœur Marthe envoyèrent dire à Jésus la maladie de Lazare. C'est de là qu'il va remonter à Béthanie pour le ressusciter, quelques jours à peine avant sa crucifixion. juste avant d'être immolé comme un agneau et d'entrer librement dans sa mort, Jésus retourne donc en ce lieu où son précurseur l'a désigné comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est riche de signification et c'est comme une ultime préparation à ce qui lui reste à vivre pour accomplir la rédemption du monde. Prière de Ludolphe le Chartreux. Saint Jean-Baptiste, illustre ami de Jésus, flambeau brillant et ardent, intercédez pour moi auprès de Dieu, afin qu'il réchauffe mon cœur aveugle et froid. Qu'à votre exemple, je sache supporter avec patience toutes les adversités pour le nom de Jésus, pour la foi, la justice et la vérité. Que je ne craigne pas de combattre avec courage jusqu'à la mort même. Par le secours de vos prières et de vos mérites, obtenez-moi de participer un jour aux noces royales de l'agneau sans tache, vous qui l'avez montré du doigt au peuple qu'il venait sauver, ainsi soit-il. »